Bonjour, bienvenue Esprit Occitanie en direct du studio Gisèle Halimi.
Bonjour à toutes et à tous.
Régis Thomas m'accompagne, Andrés Atenza, nouvelle émission Kairos. Un moment philosophique, donné à réfléchir, telle est au fond la plus belle de nos ambitions. En ces temps où triomphe partout la parole qui passe sans laisser de traces, voici des capsules, des textes conçus, écrits pour tous ceux qu'anime le désir de penser à travers la lecture et le plaisir de communiquer. Nous allons tenter de vous faire découvrir de nouvelles problématiques, de confronter des idées, de souligner les antagonismes. L'exercice de la pensée ne va pas sans une certaine tension, mais surtout un défi. Régis Thomas, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes enseignant dans de très belles institutions toulousaines. Alors aujourd'hui, on va pas rire, parce que vous nous proposez, en tout cas, nous vous proposons de réfléchir une problématique, en tout cas, toujours éternelle pour l'homme, en tout cas depuis qu'il est homme, peut-être, le mal. C'est mal parti cette affaire.
Disons que c'est encore aujourd'hui le jour pour encore souhaiter les vœux de bonne année. Et donc nous allons bien commencer l'année. Et donc cette série de podcasts avec le mal. Donc effectivement, c'est un sujet, comme vous disiez, toujours d'actualité, douloureusement d'actualité. Et nous n'avons pas choisi la facilité pour commencer puisque c'est un sujet extrêmement vaste. Puisque parler du mal, c'est parler de choses extrêmement diverses.
Alors, un exemple. Alors, catastrophe, crime, injustice. On a l'impression que l'histoire est un recueil d'infortunes du genre humain, quoi. Hein. Donc, vraiment, c'est terrible, ça. Hein.
Ah, mais comme le disait Pascal, hein, le mal est aisé, et il y en a une infinité. Le bien est presque unique. Hein. C'est-à-dire que le mal est facile apparemment à commettre. Par contre, il est beaucoup plus difficile à connaître. Et nous allons essayer modestement, dans cette capsule, d'éclairer quelques aspects de ce sujet, ma foi, fort ombrageux.
C'est-à-dire qu'on va tenter de le saisir, là. Est-ce qu'on pourra le saisir ou est-ce qu'il va falloir tourner autour et peut-être faire de la phénoménologie du mal, hein? C'est cela, peut-être, non?
Oh là là, la phénoménologie. Alors, on commence très fort avec un grand mot. Disons qu'on va simplement essayer de commencer à explorer quelques pistes, puisque le mal en soi est multiple par nature, hein, que ce soit le mal commis, le mal subi, hein, pour citer que quelques pistes, hein, le mal physique, le mal psychologique, le mal moral, hein, ça mobilise à la fois la philosophie, la médecine, la théologie, la politique. Les champs sont extrêmement, extrêmement étendus.
Et pourquoi le mal, ça apparaît comme problématique philosophique? C'est pas nouveau comme notion. Hein. Nos amis philosophes, nos penseurs ont beaucoup travaillé sur cette question.
Alors, oui, ils ont beaucoup travaillé sur cette question, et très tôt, hein, dès l'Antiquité, hein, la question se pose. Disons que le mal a une... on parlait de phénoménologie à l'instant, mais il est intéressant à ce niveau-là, puisque le mal, tout d'abord, se marque par le fait qu'il va nous saisir, il va nous mobiliser, il va, suivant sa force, nous sidérer, nous stupéfier. Il y a un aspect affectif, hein, qui nous mobilise au départ. Hein. Alors, quand on a une grande catastrophe, forcément, on est saisi.
On est saisi par le mal.
Voilà, hein, il va mobiliser toute notre attention. Mais une fois cette première phase passée ou dépassée, il y a le questionnement. Il y a le questionnement par rapport au mal. Pourquoi ?
Pourquoi le mal ? Pourquoi ? Est-ce que c'est une question occidentale ? Est-ce que c'est uniquement les Occidentaux qui parlent du mal ? Un mal pour un bien pour un mal, ou dans d'autres civilisations, cette question du mal se pose également.
Alors, là, pour le coup, j'avoue ne pas être expert dans ces questions. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Néanmoins, à partir du moment où on mène une réflexion morale ou éthique, il y a nécessairement la question du mal, simplement du mal agir, hein, si j'ose dire, qui se fait jour.
La violence, par exemple, la violence à autrui, parler de la maladie, donc c'est le mal. Le mal, c'est le désordre de manière générale, quoi. On pourrait le dire comme ça. Partout où il y a du désordre, le mal règne.
Oui, alors, disons plus que de désordre, on pourrait parler d'écart.
D'écart.
Un écart dans le mal. Hein. C'est un écart finalement, hein, quand on juge quelque chose est mauvaise ou mal, entre ce qui est et ce qui devrait être. Hein. Je reprends ici la belle définition de Hegel, hein, qui disait que le mal, c'est la non-conformité entre l'être et le devoir-être. Hein. Le mal, dans la manière dont on peut le reconnaître, peut effectivement s'identifier à cette définition-là.
Voilà. Et pourquoi moi, quoi? Pourquoi ça m'arrive, quoi? C'est pour ça, c'est une question très personnelle. Pourquoi le mal? Pourquoi je souffre? Pourquoi cette injustice m'accable? Pourquoi cet accident? Pourquoi ma maison est détruite dans cette catastrophe? Pourquoi?
Voilà.
Cette question du moi, et moi là-dedans, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que il y a, avec le mal, la question de l'injustice. Hein, on le sent comme une injustice, c'est aussi un scandale par rapport au mal. Le scandale du mal, c'est le scandale du juste qui est puni, par exemple. Hein. Alors là, bien entendu, on peut faire référence, hein, au fameux livre de Job.
Hein. Ah, alors, rappelle-nous pour voir, pour nos auditeurs, là, peut-être rapidement.
Voilà. Donc, dans Job, donc ça... un personnage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et donc, Job est un personnage qui louait Dieu, qui croyait sincèrement en Dieu de façon tout à fait honorable. Et le diable, finalement, trouve que sa dévotion est quand même assez aisé, puisque tout lui réussit. Il a un beau troupeau, il a une femme, il a des enfants, tout lui réussit.
Tout se passe bien.
Tout se passe bien. Mais si tout se passait mal,
voilà, qu'est-ce qui se passe?
On lui enlevait tout ça, est-ce qu'il croirait encore? Voilà.
Ça, c'est une question importante, là, existentielle.
Oui, tout à fait.
Souvent, dans le langage de la rue... quand on rencontre ceux et celles qui ont des difficultés, en disant « moi, on peut croire en Dieu quand tout va mal, quand tout va bien, on s'exonère, voilà, on a l'impression qu'on s'exonère. Ah Dieu, pourquoi tu m'as fait ça ? Quand tout va bien, on ne se pose pas la question, quoi. Mais on prie quand ça va mal, quoi. Nous prions quand ça va mal. »
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Mais peut-être que je fais offense à ceux qui croient.
Alors, disons que ce serait effectivement la vision qu'on pourrait avoir de la pratique de la prière de façon spontanée, effectivement, puisque à ce moment-là, la prière serait vue comme une manière, hein, de réagir, hein, par rapport au mal. Mais ensuite, dans une perspective religieuse, précisément, hein, le mal peut, comme dans le cas de Job, devenir une épreuve. Une épreuve et qui finalement permet de montrer qu'on peut croire en vertu de l'absurde, credo qui est absurdum, hein, et qui à ce moment-là, hein, bon, par exemple, hein, on va revenir à la philosophie, par exemple celle de Søren Kierkegaard, hein, puisqu'on parlait d'existentialiste, hein, donc Søren Kierkegaard qui est un philosophe danois du 19e siècle.
Un très bel ouvrage qu'on conseille à nos auditeurs, les riens philosophiques ou les miettes philosophiques, un petit ouvrage qu'il faut lire, hein, qui n'est pas aisé, mais qui nous informe quand même, hein, parfois de cet existentialisme, de cette difficulté, quoi.
Tout à fait, surtout que Kierkegaard a une très belle plume, il a aussi écrit un roman, Le journal du séducteur aussi, qui peut être une très belle entrée dans sa philosophie. Il a aussi écrit Crainte et tremblement, hein, où justement le problème, hein, de la foi, hein, le fameux credo qui est absurdum, hein, est examiné de façon magistrale.
Le mal qui est une expérience terrible pour nous, pourquoi cela m'arrive à moi, c'est injuste, cette injustice, cela renvoie à ce que vous pouvez peut-être dire ou qu'on pourra peut-être aborder la question de nous rappeler que nous sommes vulnérables. Il y a une sorte de vulnérabilité universelle, non ? Aujourd'hui, on est tous vulnérables, on est tous touchés par le mal. Mais pourquoi le mal existe ? Est-ce qu'il y a un lien entre le mal et le bien ? Est-ce que ça doit se conjuguer ? Est-ce que c'est un couple qui se fréquente bien et mal, ou ils sont vraiment séparés ?
Alors, est-ce que c'est un couple ? Est-ce que c'est un couple dysfonctionnel ? Disons que la question, elle est complexe et elle va nous amener sur un terrain, non pas cette fois de la phénoménologie, mais de la métaphysique. Hein, c'est-à-dire que si on dit qu'il y a un couple du bien et du mal, ça veut dire que le mal a une existence. Hein, si on les affirme, oui, si on affirme qu'il y a les deux. Mais la question que se sont posées de nombreux philosophes, c'est quel est justement le statut métaphysique du mal ? Hein, est-ce que c'est quelque chose, le mal ? Bon. Quand on le définit comme un écart, non, ce n'est pas quelque chose, c'est juste un écart. Hein, et donc, avec Aristote, par exemple, hein, on peut avancer que le mal n'est pas un être, hein, c'est ni un non-être, puisque on le constate. C'est une privation. Hein, c'est une privation. Hein, voilà. Hein, la maladie, c'est une privation de santé.
La maladie, privation de santé.
Voilà, d'accord. Bien.
Donc, on voit bien, vous êtes en train de dessiner un peu le couple.
Ouais, oui, voilà. Un petit peu spécial quand même.
Spécial,
hein,
tout à fait. Vous avez raison.
Un petit peu spécial. Ensuite, on peut concevoir le mal avec plus de consistance. On peut en faire un principe. Mais si on en fait un principe, à ce moment-là, il faut penser une dualité entre deux principes, le bien et le mal. À ce moment-là, on va se retrouver du côté de ce qu'on a pu appeler le manichéisme. Hein, le manichéisme.
Qui est un courant de pensée. Hein.
Qui est un courant de pensée.
Très ancien.
Très ancien, débute vers le 4e siècle, pardon, avec Manès, et qui est connu, malheureusement, je dirais, uniquement par ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont critiqué. Hein. Dans le manichéisme, on a l'idée. Finalement, que le monde tel que nous le connaissons, que nous l'expérimentons, dans lequel nous vivons, le monde de la matière, hein, est l'œuvre d'un mauvais démiurge. Voilà. Et que, au-delà de ce monde, il y a un monde parfait, un monde avec le véritable Dieu qu'il faudrait retrouver. Alors, bien entendu, bon, le manichéisme, ça regroupe beaucoup de choses, hein, mais certains de nos auditeurs et auditrices reconnaîtront peut-être dans cette description nos fameux cathares que nous connaissons bien
dans notre région.
Voilà. Hein. En tout cas, cela, je dirais, cette polarisation, cette bipolarisation, finalement, pose une chose importante, c'est que on va, dans ce cas-là, identifier le mal à la matière. Hein, on va identifier le mal à la matière. La matière, c'est le mal. Bon. Ce qui est, ma foi, une solution fort pratique, puisque enfin, on peut
voir et toucher quelque chose. Oui.
Ce n'est plus cette chose impalpable, cet écart, cette privation. Non, c'est quelque chose à part entière. Hein. Et on peut, à ce moment-là, agir. On peut identifier, on peut agir en se disant, voilà, il faut se libérer de cet ancrage, hein, dans la matière pour aller vers la spiritualité.
Bien et mal, un couple assez spécial. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de bon et mauvais, un autre couple assez spécial quand même ? Mais est-ce que c'est du même ordre, le bon et le mauvais ?
Alors...
bien et mal, bon et mauvais.
Ah, c'est pas
du même ordre.
Non, c'est quand même pas du même ordre. C'est quand même pas du même ordre. Bon et mauvais, déjà, dans la, quand on parle de bon, de mauvais, on peut être tenté, je dirais, à l'oreille spontanément, déjà de plus accentuer le côté subjectif de l'appréciation, hein, puisque bon et mauvais, finalement, on peut l'employer pour une action, pour un film ou pour le dessert qu'on a mangé le dimanche en famille. Voilà.
Là, vous êtes dans la on est dans la subjectivité, c'est ce que vous considérez, hein, Régis, c'est comme voilà.
Voilà. Alors, disons que bien entendu, je ne clôt pas la compréhension de ces termes, la subjectivité. Hein, ça c'est bien évident. Mais disons que c'est une voie d'accès à la chose. Est-ce que finalement on n'est pas condamné dans ce sujet-là à la subjectivité, de même que en art, souvent, on serait tenté de dire qu'il n'y a que de la subjectivité. Bon, en philosophie, comme on aime beaucoup les problèmes, bien entendu, on va pas se contenter de ça. Mais il faut quand même le souligner. Hein. On peut très bien, pour rebondir sur la subjectivité, penser le bon et le mauvais en termes, et le bien et le mal.
Et le bien et le mal, bien sûr.
En termes d'évaluation, et penser que, par exemple, comme Nietzsche, il faut penser par-delà bien et mal. Et que ces catégories, comme la vérité, ce genre de choses, ne sont que des évaluations issues d'une perspective que l'on a sur une réalité en perpétuel mouvement. Voilà.
Donc, l'évaluation, là, semble nécessaire. Et intellectuellement, on est équipé pour pouvoir faire cette évaluation, quoi. En tout cas, il faut pratiquer de la philosophie pour faire cette évaluation.
Ça aide.
Ça aide.
Ça peut aider.
Sur la question aussi qui nous semble importante, et beaucoup de philosophes ont parlé, et en particulier, je fais référence à Hannah Arendt, sur la question le mal, est-ce qu'il y a une banalité du mal ou est-ce qu'il y a une radicalité du mal? Comment là on est aussi dans, je vous propose une évaluation et je me souviens de Hannah Arendt qui disait en fait c'est la banalité du mal en parlant de ce qui s'était passé au moment du procès de Eichmann. Ouais, la banalité, c'est pas une, il y a pas de racine du mal, mais c'est le mal est banal, il est partout. N'importe qui peut commettre, non ?
Alors, la banalité du mal, déjà, c'est un concept chez Hannah Arendt qui est beaucoup plus complexe que la vulgarisation qu'on a donnée par la suite.
Bien sûr.
Mais
est-ce qu'on peut éclairer un peu, peut-être, sur cette question rapide, hein, pour...
Oui, c'est-à-dire, au-delà du procès Eichmann qu'elle a couvert, elle a été, d'une certaine façon, obligée de reprendre ce concept qui très tôt a été finalement détourné. Voilà, la banalité du mal, finalement, hein, quand elle l'a identifié chez Eichmann, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur qui était vraiment Eichmann et son rôle effectif dans l'affaire, qui, je vais pas développer, mais il est intéressant, par exemple, de lire ce que Joseph Kessel a pu couvrir par rapport à ce procès. Il a une sensibilité différente de Hannah Arendt là-dessus. Mais quand Hannah Arendt parle de la banalité du mal, elle va aller sur le terrain de finalement cet esprit critique qui est anesthésié, si j'ose dire, par un système. Hein, voilà, Eichmann détourne, par exemple, l'impératif kantien, hein, pour simplement justifier que finalement, comme à peu près, enfin tous les SS quoi, qui sont passés en procès, J'ai obéi aux ordres.
Bon,
voilà.
Donc, je ne suis qu'un grain de sable dans cette grande machinerie et dans cette tuerie. Voilà, mais je ne suis en rien responsable, quoi. C'est la banalité du mal. On peut le dire comme ça, très, très
bien,
rapidement.
Bien, tout à fait, tout à fait. Après, sur le cas Eichmann, c'est peut-être sans doute pas le meilleur exemple de cette banalité, vu son parcours dans la SS. Avant la guerre. Par contre, quand vous intéressez au parcours de miliciens hein, en 43 en France, là vous avez des jeunes qui sont engagés dans la milice, hein, donc qui fait de la répression vis-à-vis de de la résistance, qu'ils appelaient des terroristes. Et là, vous avez vraiment des jeunes qui n'avaient pas d'idéologie particulière, mais ils se sont engouffrés dans ce mouvement et ont perpétré des actes dont on ne les aurait pas cru capables.
Ouais, c'est ça. Il y a eu un basculement. Mais on aurait pu penser aussi la même chose. À un moment donné de la contingence, vu les circonstances, on a basculé du côté de la résistance, mais comme on peut basculer du côté de la collaboration, quoi. Et puis ces personnes-là ont commis des actes, jamais on n'aurait cru qu'ils auraient pu le faire. C'est ça, c'est
oui,
ce que vous êtes,
c'est-à-dire,
ce que vous dites, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que cette période de la Seconde Guerre mondiale, elle est intéressante précisément pour notre propos, parce que nous voyons dans chacun des camps, finalement, la résistance ou la collaboration, des individus qui, avant-guerre, n'auraient jamais frayé ensemble. Nous retrouvons à Londres des gens de l'Action française.
Eh oui.
Voilà, qui vont être avec des personnes de gauche, auxquelles ils n'auraient jamais parlé autrement qu'en s'invectivant, et dans la collaboration des gens qui étaient au SFIO. La SFIO. Donc, c'est là où, en fait...
Les frontières se sont effacées, les clivages
Oui, les parcours. Et c'est là où on voit que le problème du mal, en fait, ça, quand vous parliez de banalité ou de radicalité, ou ce qu'on peut appeler aussi le mal radical... Hein,
après oui, quand, le mal radical.
Le mal radical, voilà. C'est le grand problème de ce qu'on appelle la nature humaine. Finalement.
Hein. Et alors la nature humaine, elle est foncièrement dans le mal. L'homme est un loup pour l'homme, comme disait Hobbes. C'est ça que vous êtes en train de me dire. L'homme, voilà, l'homme ne peut faire que le mal. Alors, l'homme doit commettre le crime.
Alors,
vive la civilisation.
Je vous laisse la paternité de vos propos. Mais alors la nature humaine, déjà, il faut bien comprendre que c'est un concept complexe. Qui reçoit
très complexe.
Plusieurs définitions,
très complexe.
D'accord, et qui est même remis en cause, hein, par la sociologie notamment, qui voit qu'une construction sociale. Bon, le concept de nature humaine nous permet en fait d'essayer de cerner comme ceci des invariants, si j'ose dire, dans les conduites. Enfin, c'est le but de la nature humaine, en fait. Le concept de nature humaine, quand il émerge finalement au XVIIIe siècle, c'est aussi l'idée de trouver un point commun dans l'humanité, quoi. Voilà. Bon. Alors, point commun dans le crime. Bon, on pourrait trouver quand même de meilleurs points de partage, quoi, je dirais. Hein. Mais ce problème de la nature humaine, en fait, qui est quand même assez conséquent, pourrait aussi très bien, et de façon assez naturelle finalement, si j'ose dire, être relié au grand problème par rapport au mal, celui de la liberté, du libre arbitre.
Alors, je voudrais revenir, et je vais peut-être blasphémer, mais vous avez raison, il faut que j'assume mes...
Vos blasphèmes, oui.
Mais, voilà, pour
oui,
blasphémer.
Mon fils.
Un jour, j'ai eu une expérience terrible. Un de mes étudiants est mort dans un accident tragique, un jeune de 20 ans. Et je me souviens que nous avions fait une minute de silence, c'est vivant dans mon esprit, dans ma chair, j'étais au micro, j'étais saisi par ce mouvement d'une grande tristesse, rendre hommage à ce jeune. C'était injuste de partir trop tôt, quoi, hein, mourir à 20 ans. Et puis, l'image de Leibniz m'est venue à la tête, comme, vous savez, comme une sorte d'éclair, parce que j'avais lu le Théodicée et j'avais dit à mes étudiants, au tribunal de la Théodicée, Dieu doit rendre des comptes. Alors, vous parlez, vous, de Leibniz et de la Théodicée. Est-ce que Dieu doit rendre des comptes à ce tribunal?
Ah, alors, là, plus que celui de la liberté, là, pour le coup, on disait tout à l'heure que le mal engendrait la question du pourquoi, mais ça engendre aussi la question du qui. Qui est responsable?
Qui est responsable? Ben oui, il faut un responsable.
Il faut du sens. Voilà. Il faut qu'il y ait un responsable ou un coupable. Après, responsable, coupable, hein, ça peut rappeler malheureusement un célèbre procès qui avait défrayé la chronique judiciaire il y a quelques décennies. Mais la grande tentation, bien entendu, si j'ose dire, c'est de faire porter la responsabilité du mal à celui qui est censé avoir créé le monde.
Oui, donc Dieu. Parce qu'il crée le monde, il crée le bien, mais alors pourquoi crée-t-il le mal? C'est ça. C'est pour ça qu'il est responsable. Pourquoi a-t-il créé le mal en même temps que le bien? Alors, pour les croyants, oui, mais il y a la rédemption, il y a la liberté, le libre arbitre. Oui, mais quand même, c'est, on pourrait dire que c'est assez facile. C'est mieux que tout soit parfait. Si Dieu est parfait, il aurait dû nous proposer un monde parfait.
Alors, précisément, c'est le grand problème de toutes les théodicées. C'est-à-dire que si on pense que Dieu est bon et que Dieu est omnipotent, alors il y a plusieurs cas de figure s'il y a le mal. Soit il est bon et il n'est pas omnipotent, soit il est omnipotent, mais il n'est pas bon. Après, il peut être ni bon ni omnipotent, mais là, bon, on a un autre problème qui risque de se poser. Hein. C'est un questionnement que l'on peut retrouver déjà chez un auteur chrétien, il s'appelle Lactance, dans un... c'est le Cicéron chrétien, c'est son surnom.
Le Cicéron chrétien,
voilà,
oui.
Dans un ouvrage qui s'appelle « La colère divine ». De la colère divine, et Lactance critique Épicure. Il critique Épicure, puisque dans le système d'Épicure, en fait, vous n'avez pas cette idée de providence.
Non.
Voilà. Les dieux épicuriens sont entre les mondes, et ils sont bien heureux, donc ils n'agissent pas du tout.
Ils n'agissent pas sur les hommes, quoi.
Voilà. Et c'est intéressant, parce que dans ce texte, déjà, on a... chez Lactance, l'idée l'idée, non, il prête à Épicure finalement les éléments de la théodicée, celle du vouloir et du pouvoir. Il examine les cas de figure. Bien entendu, hein, il ne va pas aller dans le sens d'Épicure, hein, mais au contraire proposer une solution assez, je dirais, originale. En tout cas, dans la littérature de l'époque, puisque pour lui, le mal, c'est non pas un défaut, une création, mais c'est ce qui permet à l'homme, à l'être humain, pardon, de pouvoir exercer sa sagesse. Hein, si nous n'avons pas de mal, nous n'avons aucune occasion d'exercer notre sagesse.
Nous allons faire une pause et nous vous proposons la Traviata pour se donner du souffle et continuer à aborder cette question du mal. Esprit Occitanie, un moment caïrique, Kairos, notre nouvelle émission avec Régis Thomas et Andrés Atenza. Notre discussion sur le mal, on a dit qu'on n'allait pas rire, même si on sait que le rire est le propre de l'homme. Mais là, on ne rit pas parce qu'on parle du mal, on parle de la liberté, on parle des salauds et des pires salauds et qui pourraient faire le bien, ils font le mal. Il faudrait qu'on revienne peut-être, Régis, sur cette question de la théodicée pour nos auditeurs. Qu'est-ce que retrouve ce terme? Comment on peut définir la théodicée quand on dit au tribunal de la théodicée, Dieu doit rendre des comptes? Théodicée pour nos auditeurs,
alors, déjà,
pour
bon,
être plus précis toujours.
Le tribunal théodicée, ça a quelque chose d'un pléonasme.
Voilà.
Hein, puisque voilà, théodicée, voilà, on passe en jugement, hein, Dieu, voilà, bon. Donc l'idée finalement, alors c'est quand même Leibniz qui a dressé cette théodicée véritablement s'impose, si j'ose dire, comme le grand auteur sur la question, hein, puisque comment dirais-je, Leibniz a une production philosophique extrêmement vaste, extrêmement importante, et sa philosophie de ce point de vue-là a été aussi indirectement, je dirais, popularisée et caricaturée par Voltaire dans Candide, hein, sous le nom de Candide, Candide ou l'optimisme, hein, l'optimisme étant dans l'ouvrage, hein, hein, la rage de dire que tout est bien quand tout va mal, hein, comme disait le personnage. C'est l'idée finalement que du point de vue de la globalité, il y a le bien dans la création, mais que lorsqu'on se place dans une perspective plus particulière, à ce moment-là, effectivement, on peut constater le mal. Hein. Mais dans la littérature sur la théodicée, l'auteur qui est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui nous entretient de l'échec des théodicées. Et si spontanément nos auditeurs pourraient se dire que Nietzsche serait dans le coup, ben disons qu'ils vont être un petit peu déçus, puisque je ne vais pas parler de Nietzsche, je vais parler de Kant.
Et alors Kant, qu'est-ce qu'il nous dit là? Voilà, il traduit. Quelle est la singularité de sa pensée pour Kant?
Alors, Kant, c'est un philosophe emblématique des Lumières. Bien, des Lumières du 18e siècle. C'est même lui.
On pourrait dire le maître des maîtres des Lumières, non?
Alors, les spécialistes des Lumières françaises, peut-être, ne seraient pas d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'est à lui qu'on doit l'opuscule Qu'est-ce que les Lumières? C'est lui qui définit.
C'est lui qui définit, voilà. Très clairement. Un petit opuscule.
Petit opuscule, voilà. Hein, puisque Kant n'est pas uniquement l'auteur de ce monument qui est la critique de la raison pure, mais oui, et aussi hein, l'auteur d'opuscules, hein, tout à fait stimulant, si j'ose dire, à lire. Et dans cette littérature-là, il y a donc son ouvrage sur l'insuccès des essais, de théodicée. Kant partage finalement avec nombre d'auteurs des Lumières cette idée des limites de la connaissance. Hein. Et instruire une théodicée, clairement, c'est dépasser les limites hein, de ce que hein, peut connaître la raison. Et ce que nous dit Kant, c'est un élément extrêmement important. C'est que finalement, dans le procès, le personnage principal, c'est pas Dieu. Le personnage principal, c'est l'avocat.
C'est l'avocat. Alors là, il faut nous expliquer, hein, parce que pour essayer de suivre votre pensée, mon cher Régis.
C'est-à-dire que le véritable protagoniste d'une théodicée, c'est la raison humaine. C'est la raison humaine qui est prise d'une extravagance par laquelle elle pense pouvoir hein, justifier, innocenter la divinité. C'est ça qui est au centre du débat.
Au sens du débat.
Voilà. C'est pour ça que quand on parle du mal, c'est, on dit, Paul Ricoeur a beaucoup écrit sur la question du mal, hein, et a bien montré cette chose très importante. Le mal, c'est un défi pour la philosophie parce que c'est un défi pour la rationalité. Hein? Le mal, c'est ce qui mais en échec, hein, ou du moins contrarie fortement.
Contrarie fortement.
Voilà, notre rationalité.
Rationalité.
Voilà. Et Kant met très bien ça en avant dans son texte, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas instruire une théodicée. En fait, le procès, c'est celui de la raison humaine qu'il faudrait faire. Voilà.
Aucun auteur s'est proposé, dans la lignée de Kant, d'aborder cette question, de faire le procès de la raison.
Alors,
parce qu'il y a peut-être des auteurs qui ont marqué plus particulièrement défier la raison, pourrait-on dire.
Ben, celui qui s'inscrit dans cette logique, c'est bien sûr Nietzsche.
Nietzsche en partout, voilà. Ben, très fortement.
Oui. Très, très fortement. Puisque Nietzsche marque, de ce point de vue-là, un point de bascule.
Il y a deux ruptures, pourrait-on dire même.
De rupture extrêmement important, tout en ayant un regard très appuyé vers la plus haute antiquité, hein, avant Socrate, hein, les fameux pré-socratiques qu'il connaissait fort bien, hein, puisque Nietzsche, de par sa formation et sa...
Il est philologue. Il n'est pas philosophe, mais voilà, il est philologue.
Il est philologue, il connaît extrêmement bien le monde antique.
Le monde antique, oui.
Le monde antique. Et ce qu'il propose, c'est véritablement, au-delà de l'aspect, je dirais... éclatant, détonnant, hein, de l'image qu'on peut en avoir, hein, avec ces titres extrêmement pétards, hein, comme on dit, hein, l'Antéchrist, par-delà le bien et le mal. Voilà.
Des livres qu'il faut lire, nous conseillons à nos auditeurs, et d'ailleurs on se proposera dans nos capsules, en complément, de fournir, pourrait-on dire, une modeste bibliographie ou un sentier bibliographique qui invitera, bien entendu, à continuer la réflexion par soi-même.
Tout à fait.
Comme nous avons dit,
tout à fait.
Nous souhaitons penser par nous-mêmes, passons par nous-mêmes. Mmh. Aujourd'hui, on donne juste quelques pistes.
Tout à fait. Et Nietzsche, il est intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est vraiment une toute autre vision de la philosophie avec la vie, hein, qui devient la valeur primordiale, une vie en mouvement perpétuel. Hein, et la vérité, hein, c'est une métaphore dont on a oublié l'origine.
Est-ce qu'on peut lutter contre le mal? Est-ce qu'on peut lutter contre les divers maux de notre monde? Est-ce qu'on est armés, nous les philosophes, ou est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs... peut-être à la manière d'Épicure, une pharmacopée pour lutter contre le monde, contre le mal.
Alors, le mal du monde, ça risque d'être un petit peu compliqué.
C'est une modeste capsule.
Voilà. Hein, même si pour la première émission, nous aurions souhaité avoir quelques scoops en la matière. Mais... à ce moment-là, si on peut parler précisément d'une action que la philosophie pourrait avoir par rapport à cela, il y aurait peut-être deux pistes à explorer. La première, c'est celle, hein, d'une philosophie qu'on va dire engagée, hein, philosophie engagée, qui finalement ne débute pas avec ce qu'on appelle les philosophes engagés, Sartre ou Camus. Hein. N'oublions pas, par exemple, que la Camus Platon, hein, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, son but, c'était, hein, de former donc des individus aptes à influencer, hein, les puissants de l'époque, hein, afin d'avoir des gouvernements plus justes. Hein, donc, il y a une forme d'engagement de ce côté-là.
Il y a une forme d'engagement.
Voilà. Ensuite, bon, un philosophe engagé, évidemment, on pense à Voltaire, hein, surtout à Toulouse, avec l'affaire Calas. Hein, Calas, ce protestant injustement condamné pour la mort de son fils, hein, et que, 3 ans après, Voltaire a réhabilité. Et on a fait un procès sur la tolérance. Voilà. Hein. Donc, il y aurait cet aspect-là. Dans le fait que, hein, finalement, selon l'idée de Marx, la philosophie, elle n'est pas là pour décrire ou expliquer le monde, mais pour le transformer. Voilà. Donc, ce serait la première piste. La deuxième piste, elle est plus éthique, si j'ose dire. Hein. Et là, nous nous retrouvons, hein, vous parliez d'Épicure, à l'instant, nous retrouvons la grande idée de la philosophie antique, hein, cette grande idée d'une philosophie qui est théorie et pratique, hein, tout uniment, hein, d'une même pièce.
D'une même pièce, voilà. pour vivre, vraiment,
voilà.
pour pouvoir vivre.
Pour pouvoir vivre et surtout atteindre ce bonheur, hein, atteindre le bonheur. Bon. Donc nous avons dans les philosophies de l'Antiquité, hein, on pense aux stoïciens, on pense aux épicuriens, une manière finalement d'intégrer leur vision du monde, leur vision de la réalité dans des pratiques précises, hein, des exercices. Hein. On pense par exemple aux épicuriens, aux stoïciens, pardon, qui pouvaient s'exercer à la remémoration, remémoration en fin de journée par exemple, ou anticiper le matin les mots de la journée, les mots MOX, M-O-X, pardon, de la journée. Voilà. Donc vous aviez plein d'exercices.
C'était vraiment des philosophies pratiques. Et voilà, avec une sorte d'exercice spirituel, pourrait-on dire, là.
Ce sont des exercices spirituels, hein. Alors, le terme en soi, récemment, a pu être critiqué, puisque on y voyait finalement une projection d'exercice chrétien sur les pratiques antiques. Mais il faut néanmoins retenir, au-delà du côté spirituel, qui peut éventuellement pourvoyer, si j'ose dire, sur leur teneur, ce sont aussi des exercices du corps. Hein. Alors, moins dans le stoïcisme impérial, hein, avec Sénèque en particulier, mais on pense par exemple à Diogène, hein, Diogène le cynique, hein, voilà, l'ascèse cynique, hein, avec un endurcissement du corps, hein, quand il neige, bon, on va pas aller se mettre au chaud, au contraire.
Au contraire.
Hein, au contraire, on va marcher dans la neige.
On va affronter le froid.
Voilà, on va embrasser les statues, on va s'endurcir, voilà. Hein. Donc c'est l'idée finalement que le mal n'est pas, justement, on va pas en rester à sa vulnérabilité, mais on va tout faire pour surmonter,
pour surmonter
cette vulnérabilité par un exercice constant. Durable.
Durable.
Voilà. Hein, c'est-à-dire que ces exercices spirituels, ce ne sont pas des choses que l'on peut faire en dilettante. Voilà. Il faut une implication totale dans cette pratique-là.
Juste une critique. Ce n'est pas des petites choses comme le développement personnel. Je le rappelle, l'exercice de la philosophie, ce n'est pas du développement personnel. C'est une pensée, c'est un exercice, c'est de la rigueur. Il faut peut-être rappeler cela aussi. Hein.
Oui.
Non,
oui.
Bah, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de marchands de bonheur autour du développement personnel. La philosophie, ce n'est pas le développement personnel, c'est l'exercice de la pensée.
Oui, surtout que le développement personnel puise allègrement dans les
dans
thèmes.
Dans les philosophies.
Dans la philosophie, en la citant, mais en traitant la chose d'une manière très technique, en fait. Hein. Ce sont des techniques d'amélioration. L'aspect majeur de ces éthiques, de ces ascèses antiques, c'est que ce sont plus que des recettes, c'est véritablement des pratiques intégrées à la vie de la personne qui sont là pour véritablement entretenir cette conversion à soi, hein, comme pouvait dire par exemple Épictète.
Vous dites les documents de préparation que nous avons eus, que Socrate affirmait que nul ne fait le mal volontairement. Quand on dit cela, on dit quoi exactement? Qu'on ne fait pas le mal volontairement?
Alors,
cette formule célèbre. Hein.
Alors, c'est effectivement une formule qui...
Nul ne fait le mal volontairement.
Alors, cette formule, précisément, elle a l'air totalement paradoxale au sens premier du terme, c'est-à-dire aller contre l'opinion commune, puisque n'importe qui, en disant la formule, se dit « Oui, mais bon, on fait toujours des choses... on peut faire des choses mauvaises de façon involontaire. » Bon, voilà. C'est pas si quelqu'un se met à trop boire, par exemple, et à ce moment-là, bon, la plupart du temps, il va faire des choses dont il sera pas fier le lendemain. Hein?
Voilà. Bien évidemment.
Voilà. Bon, donc on peut penser à ça. Mais ce qu'il faut en fait bien saisir dans la formule, c'est que vous avez une certaine manière de comprendre la vertu considérée comme un savoir. Voilà. Et que en fait, vous avez un lien indéfectible entre le bien et le savoir. En fait, celui qui agit, hein, et qui de l'extérieur peut être considéré comme quelqu'un qui fait une action mauvaise, en fait, ce qu'il considère comme un bien, c'est un déficit de connaissance. C'est un déficit de connaissance. Hein. C'est ce qu'on appelle l'intellectualisme socratique. Voilà. D'accord. Voilà.
Alors, il y a un autre auteur qu'il faut citer, parce que il relate un épisode de son adolescence sur la question du mal, c'est Saint-Augustin. Alors, que nous dites-vous, Régis, sur la question de cet épisode de Saint-Augustin sur la question du mal?
Ah, Saint-Augustin. Donc, Saint-Augustin, c'est on dirait quand même père de l'Église.
Père de l'Église.
C'est celui qui, à partir de sa lecture de saint Paul, a formalisé le fameux péché originel, voilà, et qui, dans les confessions, raconte son parcours. Ce qui est intéressant avec saint Augustin, c'est que il n'a pas été saint.
Il n'a pas été saint tout le temps.
Tout le temps, ni tout de suite, voilà. Hein. Et il raconte notamment cet épisode extrêmement intéressant, qui est connu sous le nom du vol des poires. Vol des poires.
Alors expliquez-nous ça. Donc Saint-Augustin,
un adolescent,
pas encore saint.
Oh là, pas du tout.
Et grand, pas du tout. Voilà. C'est un voleur.
Alors, mais...
Pas encore voleur,
il dit,
mais
voilà,
en tout cas...
C'est le soir, il traîne avec les copains, et il y a un poirier, et ils vont... voler ses poires. Il le dit, hein.
Il le dit.
C'est pas des poires extraordinaires. Il en a même pas besoin. Il en a pas besoin. Il en a d'autres excellentes. Enfin, chez lui, il peut en manger d'autres. Même, il nous dit, voilà, les poires, on les a données aux porcs, quoi.
Mais quand même, cet acte du vol.
Il y avait un plaisir.
Ah ouais, c'est quoi le plaisir de l'interdit?
Le plaisir, ben justement, le plaisir de faire le mal.
De faire le mal.
Le plaisir, il n'est pas dans l'objet. Les poires n'ont aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on a pris à faire le mal. Et ce qu'il y a de formidable dans le texte d'Augustin, parce que c'est très bien écrit, texte d'Augustin, c'est qu'il relate, il revient, il apostrophe cette tentation qu'il a eue, puisque il ne faut pas être très calé, si j'ose dire, en religion pour faire un lien entre ces fameuses poires le fruit de l'arbre de la connaissance. Hein, qu'on trouve dans la Genèse et qui est représenté communément, même si c'est absolument pas dans le texte, par une pomme.
Oui, mais quand même, regardez ce que vous dites, le plaisir de faire le mal. Pourquoi il n'y a pas un plaisir plutôt à faire le bien et inviter les hommes et les femmes à travers le plaisir du bien? Pourquoi le mal? C'est ça, c'est vraiment pourquoi le mal, quoi. C'est une question fondamentale, ça.
Oui, c'est une question fondamentale.
Ça revient, quoi, hein, complètement, quoi, dans nos réflexions. Hein, et on vous a dit qu'on allait vous présenter quelque chose de pas du tout rigolo, mais c'est ça, quoi.
Oui.
Même Saint-Augustin dit, il y a le plaisir.
Il y a un plaisir délicieux, en plus. Il prend du temps pour relater ce plaisir-là. Hein, il prend du temps. Et bien entendu, cet épisode s'inscrit dans sa réflexion sur ce qu'il va nommer le péché originel.
Hein, mais voilà. Il construit toute sa philosophie à partir de... Et c'est un, c'est un épisode qui a marqué sa vie et qui a formé, pourrait-on dire, sa réflexion sur le PC originel, comme vous dites, Régis, c'est ça.
C'est un épisode emblématique. Hein, même on a pu douter tellement il est emblématique qu'il ait eu réellement existé ou qu'il ait pu exagérer les choses. Hein. Après tout, hein, nous sommes dans le monde méditerranéen. Saint Augustin est né dans l'actuelle Kabylie, hein, donc on est un monde méditerranéen. Hein, Totalement. Donc bon, mais comme tous les épisodes biographiques dans l'Antiquité, avec Saint Augustin justement, on fait la bascule entre l'Antiquité et ce que sera le Moyen-Âge finalement. Dans cette période-là et dans ce monde méditerranéen, l'important ce n'est pas l'exactitude de l'épisode, c'est ce qu'on en retire.
Ce qu'on en retire. Nous avons cité plusieurs auteurs, Leibniz, on a parlé de Nietzsche, on a fait un petit tour par Kant, Voltaire également, quels autres auteurs. Mais on n'a pas cité un auteur qui, me semble-t-il, aborde aussi la question du mal, mais c'est pas une réflexion, un piège, hein, bien entendu, Régis. Spinoza, est-ce que Spinoza a abordé aussi la question du mal dans sa philosophie?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il a approfondi? Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot rapide, hein? Alors, même si on n'est pas spécialiste de tous les philosophes, mais quand même, Spinoza pour cette ouverture du mal.
Alors, Spinoza, j'évoquais le fait que la position de Socrate était paradoxale, mais celle de Spinoza est encore plus
paradoxale.
Oui, puisqu'il traite, si mes souvenirs sont exacts, du mal dans le premier livre de l'éthique, hein, l'éthique, son maître livre, si j'ose dire, construit sur le modèle d'un manuel de géométrie, très particulier, voilà. Et Spinoza, c'est le philosophe véritablement philosophe de la lucidité, qui lève les illusions. Et dans sa façon de traiter le mal, finalement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ce qu'on considère comme un mal, finalement, c'est une illusion. C'est une illusion de l'imagination. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une finalité dans les choses. Hein, une finalité dans les choses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au sens. Voilà. Hein. Et là où on voit un défaut de sens, j'ose dire, hein, là on voit un défaut de sens en pensant que la réalité, le monde est fait pour nous, hein, là on a une illusion fondamentale.
Une illusion fondamentale.
Voilà. Et que hein, le mal, c'est de l'ordre de l'imagination.
D'accord.
Voilà.
Notre capsule arrive à son terme. Est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs une sorte de conclusion ouverte pour continuer à penser? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes cette question avec les quelques auteurs que nous avons donnés, les quelques exemples, les quelques concepts, avec cette notion du mal, les conclusions ouvertes, hein, pas fermées, pour envoyer à une pensée, se laisser aller à une réflexion personnelle.
Alors, de toute façon, sur ce thème-là, sur d'autres thèmes bien sûr, mais sur celui-là en particulier, la conclusion ne peut être couverte. Je dirais, elle peut, proposer à celles et ceux qui nous écoutent plusieurs pistes selon leurs intérêts, selon leurs affinités, selon leurs préoccupations aussi, hein, puisque quand on aborde le mal, on peut aussi bien aller du côté de l'éthique médicale, par exemple, hein, dont on n'en a pas parlé. On peut se poser des grandes questions, par exemple, avec Antionas sur le concept de Dieu après Auschwitz. Les pistes sont innombrables et à travers la question du mal, en fait, c'est une question d'autant plus ouverte qu'elle nous permet d'aborder énormément de chemin dans la philosophie.
Mais il y a de l'engagement. chacun devrait peut-être s'engager contre les maux de la société. Par exemple, je m'engage contre les maux de la société inégalitaire. Je m'engage pour combattre le mal avec la valeur du bien, une exigence, une certaine morale, une exigence de faire le bien. On pourrait aussi dire à nos auditeurs qu'on peut faire ça.
Ah, on pourrait l'idée, aussi, hein. On pourrait aussi, mais on peut déjà, plus modestement, les engager à réfléchir sur la question pour voilà, prolonger hein, les quelques pistes que nous avons abordées.
Merci Régis hein, merci pour cette première capsule Kairos. Alors, il faut dire à nos auditeurs pourquoi nous avons choisi Kairos. Alors, je tente, vous complétez. C'est un moment opportun, c'est une occasion, c'est un moment de bascule, c'est un moment de crise, ce moment caïrique, ce moment de la réflexion, vous partagez cela ?
Oui, tout à fait, et puis c'est un concept aussi fondamental qu'on peut retrouver chez Aristote, voilà, et c'est un très très beau concept.
Et peut-être la prochaine réflexion, parce que nous allons vous proposer des notions, des thématiques... On a dit tout à l'heure peut-être le temps, en fonction de notre temps et en fonction du moment caïrique, peut-être qu'une capsule sur le temps vous sera proposée. Cher auditeur Esprit Occitanie, en direct de Gisèle Halimi de notre studio, merci beaucoup pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine capsule. Peut-être sur le temps ou une autre notion. Merci Régis.
Merci.